Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un jeune romancier. C'est son premier roman paru chez Julliard, premier roman qui a pour titre « Amoureuse » au pluriel. Bonjour Frédéric Baptiste.
Bonjour.
Frédéric Baptiste, vous mettez en scène des spectacles pour différentes productions et pour des artistes de théâtre. Je l'ai dit, « Amoureuse » est votre premier roman. Est-ce que vous pouvez ajouter d'autres éléments biographiques à ceux que je viens de donner à nos auditrices et auditeurs ?
J'ai un passé d'acteur, puisque j'ai fait une formation déjà d'acteur au Théâtre National de Chaillot à la fin des années 80. J'ai travaillé un peu pour le cinéma, pour la télévision et pour le théâtre. J'ai joué Shakespeare, j'ai travaillé avec Christian Clavier, Jean Reno dans Les Visiteurs, Valérie Lemercier. Voilà. Et puis après, je me suis consacré à la mise en scène parce que le hasard a fait que je me suis mis à écrire pour des jeunes troupes qui cherchaient et un œil extérieur, en fait. Donc, de fil en aiguille, je me suis mis à écrire des textes pour eux et à mettre en scène des spectacles. Voilà, pour des artistes comme Catherine Arditi, par exemple, que j'avais rencontré sur Cabaret, parce que j'ai fait après de ce qu'on appelle de la mise en scène résidence, c'est-à-dire que sur des blockbusters de Broadway comme Cabaret de Sam Mendes et Rob Marshall ou Zorro de Christopher Renshaw, je faisais partie de l'équipe artistique pour former une équipe française avec des artistes et des techniciens français, et j'en assumais la direction artistique. Voilà. Donc j'ai un passé aussi d'auteur pour différents artistes.
Voilà. Alors, un premier roman lyrique à la sensualité lumineuse, dit la quatrième de couverture donc, de votre roman disponible en librairie aux éditions Julliard. Cette histoire de deux femmes, on va bien sûr l'explorer ensemble au cours de notre échange. Cette histoire de deux femmes, c'est une histoire qui n'est pas complètement fictive. Certes, il est précisé qu'il s'agit d'un roman, mais il faut y voir aussi une histoire qui a déjà été en partie vécue par deux femmes à l'époque où débute votre roman, c'est-à-dire à l'extrême fin des années 30, au tout début de la Seconde Guerre mondiale.
Juste avant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Alors oui, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie, c'est comme ça qu'on dit, à savoir que je me suis inspiré d'interviews que j'ai réalisées de ma grand-mère l'année avant qu'elle meure. Elle n'était pas du tout malade, c'est le hasard de notre relation qui a fait que je l'ai interviewée pour garder une trace de ces histoires et ces anecdotes qu'elle me racontait depuis mon enfance, en répondant à mes questions sur qui est cette femme dans un cadre, qui est celle-ci, pourquoi est-ce qu'elles sont ensemble, et qui c'est cet homme avec cette femme-là, avec ta mère sur la photo, pourquoi ils sont trois, etc. Et de fil en aiguille, elle m'a confié que sa mère, après avoir eu quatre enfants avec son mari, avait divorcé pour aller vivre avec une femme, Marthe, sa mère s'appelant Claire, et elles se sont installées en amies. Personne ne soupçonnait l'intensité de leur relation, ni le degré d'amoureux qu'elles vivaient, caché des regards. Sachant que ces femmes se sont rencontrées au Havre, dans les années 30. J'ai situé à la veille de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons dramaturgiques, mais elles se sont en réalité rencontrées un petit peu avant. Donc voilà, et ma grand-mère, ces deux femmes ont vécu 35 ans ensemble, ont fini d'élever ma grand-mère, ses frères et sœurs, et sont mortes chez mes grands-parents à la fin des années 60, à quelques mois d'intervalle. C'est vous dire comme elles avaient besoin l'une de l'autre, sans doute. Ma grand-mère a réalisé que ces femmes avaient vécu une passion amoureuse en découvrant quelques accessoires érotiques dissimulés dans des malles, dans leurs affaires personnelles. Voilà.
Le roman s'ouvre durant l'hiver 1938. Votre héroïne se prénomme Claire. Elle est mariée à André, un homme...
René.
René, pardon. Un homme d'affaires qui a fait fortune dans le textile, donc train de vie extrêmement bourgeois, hôtel particulier... Et une femme qui est malheureuse avec cet homme à ses côtés, quand bien même elle a son rayon de soleil, cette petite fille, Charlotte, qui a 6 ans. C'est aussi un roman qui nous laisse entendre que finalement, même quand on est malheureux, il y a des fenêtres vers le bonheur qui peuvent s'ouvrir.
Absolument. C'est-à-dire qu'on peut être mal marié ou mal accompagné ou s'être trompé aussi dans sa jeunesse. Rien n'est jamais terminé, rien n'est rédhibitoire. En tout cas, cette femme, Claire, qui a 25 ans au début du roman, décide de ne pas se soumettre aux joues machistes de son époque. Elle va faire voler en éclats le temps du roman. Voilà.
Alors, c'est aussi une histoire de rébellion, quelque part, et de courage d'une femme contre un ordre établi, l'ordre bourgeois, et aussi une femme qui va à l'encontre des codes d'une société française de la fin des années 30 que je qualifierais de puritaine, mais j'avance cela avec prudence peut-être.
Alors puritaine, je ne sais pas, en tout cas conservatrice forcément, puisque c'est la conséquence du désastre de la Première Guerre mondiale qui a été envoyé toute la chair à canon se faire massacrer sur le front. Et du coup, s'est mis en place toute une politique nataliste assez désastreuse socialement, puisque du coup, on ne supporte plus que les femmes travaillent. Il faut qu'elles restent à la maison, qu'elles soient des ventres, en fait, pour ne pas prendre la place des hommes. On ne supporte pas le célibat. Et évidemment, il n'était pas question, vu la morale judéo-chrétienne, d'avorter. Or, au début du roman, Claire tombe enceinte de ce mari qu'elle n'aime plus et il n'est pas question pour elle de garder cet enfant.
Alors, il y a de la part de Claire insatisfaction de son existence parce que quelque part, elle a le statut d'une femme bourgeoise qui ne fait rien, qui est condamnée à jouer le rôle d'épouse, de bonne épouse dans une famille bourgeoise, milieu d'affaires et qui donc n'a finalement aucune liberté. Vous utilisez la métaphore du trophée de chasse, elle est l'équivalent d'un trophée de chasse que cette famille ajoute à ceux déjà pendus sur les parois du grand escalier de l'hôtel particulier.
Oui, c'est ça. C'est la sensation qu'elle a, en tout cas, de faire partie de la galerie. En fait, sois belle et tais-toi. En gros, c'est ce qu'on leur demande. Il se trouve que dans la vie, ce n'était pas tout à fait le cas. Dans le roman, c'est une riche héritière qui a été mariée au fils d'un collaborateur de son père. Donc voilà, c'est les mariages arrangés de l'époque qu'elle va dénoncer, mais pas tout de suite. En tout cas, le roman débute sur une scène où elle apprend que son mari, dont elle connaît les amours adultérines, elle a supporté jusqu'à présent de le voir avoir des aventures avec certaines domestiques, sauf que là, cette femme arrive et elle apprend qu'en fait, cette femme a eu deux enfants adultérins de son mari. Ça lui fait péter les plombs, comme diraient mes petits-neveux. Elle pète un câble.
En tout cas, c'est une femme qui est trahie et qui est bafouée.
Absolument. Et qui va décider de ne pas se laisser. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Voilà, c'est la première phrase du roman.
C'est la première phrase du livre. Je voulais vraiment commencer par là. C'est-à-dire, trop, c'est trop. Et à un moment donné, cette femme décide de prendre en main son destin Et oui, c'est ça, prend la décision que rien n'est écrit obligatoirement.
Alors en plus, le choix de la période à laquelle s'ouvre le roman, c'est-à-dire quelque peu avant Noël 1938, Noël, c'est la nativité, c'est une fête de la famille, on célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Et l'enfant, il est au cœur de ce roman. Et ce livre, c'est aussi votre premier enfant, si je peux me permettre, Frédéric.
C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ça m'a poursuivi, ça m'a accompagné pendant toute l'écriture de la gestation puis l'accouchement de cette œuvre, enfin de ce roman, parce que l'enfant est l'enjeu du roman. Le garder, ne pas le garder. Et quand on écrit un premier roman, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on garde ce qu'on écrit ? Ou est-ce qu'on le jette ? Voilà, c'est la question est de mener à terme la grossesse. C'était mon choix, moi. Là, je souhaitais que Claire n'avorte pas de cet enfant. Parce que d'abord, dans la vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Et parce que je voulais que cet enfant soit aussi l'enjeu de l'amour. Elle est enceinte d'un enfant, de son mari. Mais elle va décider de le donner à une femme pour qu'il porte le nom d'un autre homme, puisque cette femme est mariée, c'est Marthe, Édouard étant son mari, son cafetier à la campagne, et elle se réfugie chez eux pour accoucher clandestinement parce qu'il est trop tard pour avorter, et laisser son bébé à ce couple qui n'en a pas. Voilà. Parce qu'il n'est pas question pour elle que ce bébé porte le nom de son mari. Elle ne veut pas, parce qu'elle ne l'aime plus, lui faire ce cadeau-là. Oui. Elle le fera à un autre couple.
Et puis elle-même, elle a tout de même ce dégoût de ce bébé qu'elle porte en elle, puisqu'elle dit « j'ai ce truc hein, », c'est le terme que vous utilisez dans votre roman, « j'ai ce truc dans le ventre », et elle veut se débarrasser de ce truc.
Et oui, parce que cet enfant est le fruit d'un abus sexuel, d'une violence conjugale, on va dire, puisque son mari lui fait l'amour alors qu'ils viennent d'avoir une scène de dispute. Donc, et c'est ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Or, sa rencontre avec Marthe, la tendresse que celle-ci va avoir à son égard, ses caresses, on va dire, en tout cas son regard, sa considération va changer pour Claire et changer cette grossesse, la faire passer d'un cauchemar au plus grand des bonheurs, puisqu'elle va donner cet enfant qui va devenir l'enfant de son amour avec Marthe.
Alors, on aura l'occasion de reparler de Marthe un petit peu plus tard au cours de notre entretien. Néanmoins, Frédéric Baptiste, vous prenez... Alors, je ne sais pas si c'est un culot, une audace ou un risque d'aborder des sujets sur la condition de la femme. Je lis un extrait de votre roman, c'est page 62. Les femmes ont forcément, alors je ne dis pas que c'est vous, bien sûr, qui pensez cela, encore que vous pourrez nuancer à l'issue de la lecture de la citation que je vais livrer, mais vous écrivez, les femmes ont forcément un moyen de se sortir de leurs conditions de faire valoir, de bonnes à tout faire, de marchandises à dot, d'esclaves, de putains ou de saintes, ce qui revient au même. Est-ce que vous êtes allé vous renseigner un petit peu sur la condition féminine de la fin des années 30 ou est-ce que c'est... quelle est la part de réflexion et d'engagement de la parole de l'écrivain? Est-ce que c'est la part du narrateur? Est-ce que c'est la part de l'auteur?
C'est un peu détroit. C'est un peu détroit, c'est-à-dire que j'ai quand même rencontré beaucoup de femmes et puis à nouveau, je discutais beaucoup avec ma grand-mère.
C'est
avec
la grand-mère aussi,
avec
qui
ma
a
grand-mère,
dit
oui,
d'éléments.
Qui me parlait donc de sa jeunesse, de celle de sa mère, enfin de ce qu'elle savait, de l'histoire de sa mère et de cette femme et de son père qu'elle aimait énormément, mais dont elle savait que c'était un cavaleur. C'est comme ça qu'on les appelle. J'ai aussi interviewé du coup les demi-sœurs de ma grand-mère, puisqu'elle c'est donc les enfants que René a eu avec cette ancienne domestique, parce qu'elle les aimait beaucoup. Alors pour le coup, elles étaient plus jeunes, donc je les ai rencontrées, et elles étaient super, ces femmes-là. Mais donc, c'est un peu le fruit de mes conversations avec ces femmes avant qu'elles ne meurent, en 99, au tout début des années 2000. Et à côté de ça, c'est aussi plutôt, pas une provocation, mais en tout cas une question que je pose. La maman, la putain, est-ce qu'on pourrait sortir un peu de ces rôles-là qu'on confie à la femme? Est-ce qu'on pourrait envisager des choses un peu moins extrêmes? Est-ce qu'on peut regarder les femmes quand elles sont mamans encore comme des femmes et non pas aller chercher ailleurs réinventer en fait le désir, réinventer le désir au sein du couple, quoi. Voilà.
Ce que j'ai, vous le savez, je vous l'ai dit et je le dis au micro pour nos auditrices et auditeurs, j'ai énormément apprécié votre roman.
Merci.
Non seulement par la délicatesse avec laquelle vous abordez cette histoire d'amour, c'est une histoire d'homosexualité féminine, il faut le dire, le roman en parle. En plus, cela reste d'une grande actualité, hein, ce bébé porté par une femme, c'est ces femmes avec des enfants ou des hommes avec des enfants. Bon, là, effectivement, c'est le modèle féminin qui est mis en avant. Mais ce que j'ai trouvé, c'est là où alors j'insiste, pardonnez-moi Frédéric, sorte d'audace, sous la plume d'un homme en fait. Souvent les femmes aiment bien s'ériger comme celles qui finalement sont les seules capables de pouvoir parler de féminité, du désir féminin. Or vous, vous prenez, alors une fois de plus, ce risque, ce culot, et je trouve ça très, très courageux.
Merci.
Très ambitieux et je trouve ça en plus très réussi.
Bah merci du compliment. En tout cas, moi je dirais plutôt que je prends la liberté.
C'est une liberté,
voilà.
D'accord.
Parce que c'est ce que j'ai entre autres majoritairement voulu raconter à travers ce roman, c'est la liberté de pouvoir aimer qui nous plaît et il me semble que c'est la seule chose qui vaille. Qu'on puisse se battre, hein, voilà. Pourquoi pas ?
Si vous le voulez bien, Frédéric Baptiste, nous allons marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à midi à bord de Wagon Livre sur Radion. Je rappelle aussi que cette émission a été enregistrée lors de la 13e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot le samedi 26 septembre dernier. Amoureuse aux éditions Julliard de Frédéric Baptiste, que nous retrouvons dans une poignée de minutes, juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Oui, toi, tu crois. Pas comme si c'était c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de notre rencontre avec Frédéric Baptiste pour son premier roman intitulé Amoureuse aux éditions Julliard. Vous l'aurez bien compris, notre invité vous a expliqué que son roman mettait en avant l'amour entre deux femmes. Nous avons parlé donc de Claire qui sort d'un univers hautement bourgeois, la bourgeoisie du Havre avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'autre femme, alors elle est à l'antithèse, socialement parlant, de Claire. C'est Marthe, la très belle rousse, qui est mariée avec Édouard Cafetier. Donc on est à la campagne, hein, le monde champêtre, rural, rustique, à souhait, avec des scènes, oui, un petit peu perturbantes pour la bourgeoise. Hein, lorsque, effectivement, Marthe éviscère un lapin, pour elle, c'est une scène absolument insupportable. Mais derrière la réalité domestique de Marthe, c'est une femme qui a des pouvoirs que je vous prie de bien vouloir nous expliquer, Frédéric Baptiste.
Dans le roman, outre le fait que Marthe, pour rendre service aux femmes, et parce qu'on l'apprend à un moment donné, elle s'est bousillée elle-même avec les aiguilles, elle a décidé de rendre service aux femmes qui avaient besoin d'avorter, de les accompagner dans cette épreuve. Donc elle est ce qu'on appelle une faiseuse d'ange à l'époque. Mais ça, c'était, disons, par magnanimité et par solidarité féminine. Sa première vocation à Marthe, c'est qu'elle est la rebouteuse du village. Elle est respectée, c'est une fille du coin, et elle est respectée, reconnue, admirée et même crainte un peu pour ses pouvoirs qu'elle a de rebouteuse, à savoir que à partir d'onguents, fait de choses, de remèdes de grand-mère finalement, ce qu'on appelle ça comme ça, elle soigne les entorses, les brûlures, les bobos de la campagne, voilà, et chacun, homme, femme, vient la consulter quand il est tombé de l'échelle, quand il s'est cabossé, on va dire, voilà, elle remet les poignets, les chevilles en place.
Alors, évidemment, la rencontre entre Claire et Marthe est liée au fait que Claire décide de fuir le domicile conjugal.
Voilà.
Et quelque part, elle prend un risque aussi.
Alors Claire, le risque qu'elle prend, effectivement, c'est une décision qu'elle prend, son objectif étant de ne pas garder l'enfant qu'elle porte. Il se trouve que son frère, avec qui elle a une relation plutôt de connivence depuis l'enfance, son grand frère, a un copain donc, d'armée du régiment qui vit à la campagne et dont il sait que la femme est faiseuse d'ange. Donc c'est avec sa complicité, c'est lui qui l'accompagne à la campagne pour se faire avorter. Or, quand elle rencontre Marthe, il n'en est pas question puisqu'elle est enceinte de 4 mois et que ce serait trop dangereux pour elle, pour le bébé, bref. Et donc, du coup, Claire décide à contre-cœur, à regret, de rester vivre chez ce couple de cafetiers qu'elle trouve un peu plouc, on va dire, oui, de là où elle est.
C'est un choc social.
C'est un choc social qui va, au fil des jours, finalement, la révéler à elle-même et la rendre à ce qu'elle est finalement au fond d'elle, c'est-à-dire une fille beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la nature qu'elle ne le pense, beaucoup plus sensuelle qu'elle ne se vit. Et de ce choc va naître une nouvelle Claire qui va finalement, oui, enlever les carcans les uns après les autres grâce à la rencontre avec le couple, là pour le coup, qui la repousse dans ses retranchements finalement.
Alors Marthe, vous la présentez, bon, c'est une belle femme, elle est rousse. Elle a de l'or dans les mains, ça c'est lié à ses pouvoirs exceptionnels, tantôt magicienne, tantôt diablesse, parce qu'effectivement, les bocaux celliers qui contiennent différentes fleurs ou différents éléments qui peuvent soigner ou le cœur, la rate, le foie, tout cela fait d'elle un personnage un peu mystérieux qui exerce très rapidement une forme de magnétisme sur Claire. Et c'est là que forcément se met en place, on va dire dans un premier temps, une complicité, une empathie entre femmes, et puis après une histoire d'amour.
Une complicité, une amitié.
Une compréhension mutuelle.
Une compréhension mutuelle. Aujourd'hui, on dirait sororité, finalement.
Ah oui. D'accord, oui.
Parce qu'il y a, une aide. Oui, c'est ça, une aide mutuelle. La sororité, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté mutuel. On s'apprécie et on se rend service mutuellement. C'est pas à sens unique, en fait. Même si Claire est là. Enfin, finalement, oui, c'est ça, le deal qui est passé, c'est qu'elle porte ce bébé pour le donner au couple. En échange, le couple lui offre le gîte et la bienveillance, en fait. Donc, il y a un équilibre dans leur échange. Et donc, Marthe va exercer dans un premier temps, effectivement, une forme de fascination. Elle s'interroge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? En plus, elle lit dans les lignes de la main, donc elle a un côté comme ça.
Le mar de café.
Le mar de café. Elle apprend qu'elle avait prédit le départ des hommes en 14, donc elle se dit. Et elle lui dit qu'elle attend un petit garçon. Donc tout ça déstabilise la jeune femme plutôt rationnelle et comment dirais-je, contemplative, rêveuse qu'elle est originellement. Voilà.
Alors, évidemment, il faut aussi comprendre que Claire est perturbée, surtout d'être coupée de sa petite fille de 6 ans, parce qu'il y a la belle-mère qui exerce une forme d'odieux chantage, en tout cas qui empêche la petite fille de parler par téléphone à sa maman. Lorsque Claire appelle à la maison, elle tombe sur Eugénie, la belle-mère, qui est une femme qui pourrait paraître un peu rigide et froide, et qui finalement, à la fin du roman, se montre être une femme qui a de l'expérience et qui est capable de comprendre beaucoup plus qu'on pourrait le soupçonner.
Oui, parce que c'est une femme simplement qui est empêtrée dans les conventions de son époque.
C'est ça.
C'est juste ça. C'est pas une méchante.
C'est le
méchante.
Carcan
c'est ça.
D'une bourgeoisie de province qui a du mal à voler en éclats.
Oui, c'est comme dans Thérèse d'Esquerou de Mauriac. Il y a Thérèse d'Esquerou qui va faire le choix de quitter ce qui ne lui correspond pas dans ce milieu bourgeois. Et ses beaux-parents la condamnent. Or, c'est pas que ce sont des méchants, c'est juste des personnes qui sont, en tout cas Eugénie dans mon roman, une personne qui a trouvé sa liberté autrement, c'est-à-dire dans ce que Claire appelle la soumission, c'en est une, mais en tout cas, il a trouvé une forme d'indépendance, pas financière, certainement pas, parce que ça n'existe pas à l'époque. Il n'y a pas de compte en banque, les femmes sont dépendantes de leur époux, de leur frère ou de leur mari, alléluia. Elle s'organisait comme elle pouvait et dans ce monde des années 30, ces femmes qui avaient 40, 50 ans n'avaient pas la possibilité de s'autonomiser davantage. Mmh. Donc elles acceptaient la règle du jeu de mettre un mouchoir sur leur orgueil et d'accepter, quand il y en avait, la plupart du temps il y en avait, les incartades sentimentales ou sexuelles de leur époux. Voilà.
Certes, il y a les règles de la société, mais il y a aussi les règles juridiques. Parce que lorsque Claire envisage de divorcer et qu'elle rencontre le notaire Torrance dans le roman, finalement, elle n'est protégée qu'en cas de veuvage.
Absolument. Alors, c'est Tolence.
Tolence, pardon.
Maître Tolence.
Maître Tolence, pardon.
Oui, oui, la législation, et j'ai découvert ça en faisant des recherches, parce que je l'ignorais moi-même, la législation, et là, c'était exceptionnel pour Claire, la législation ne prévoyait rien pour les femmes. C'est-à-dire, une fois qu'elles étaient veuves, elles héritaient. Je crois que c'était même les enfants qui héritaient. Elles n'avaient rien. Là, en l'occurrence, il y avait possibilité. Donc, j'ai voulu, justement, pour éviter que les hommes soient les méchants, les bourgeois soient les méchants et les pauvres les gentils. Non, tout ça, j'ai essayé de nuancer un peu tout ça, de rendre ces personnages un peu plus complexes, on va dire. Et donc, son notaire a effectivement, parce que c'était possible à l'époque, prévu qu'en cas de veuvage, elle hérite une partie de la fortune, mais qui fait partie de sa dot. Donc, en fait, c'est une façon de récupérer ce que sa famille a donné dans le cadre du mariage.
Ou alors, pour Claire, il s'agit de pouvoir faire constater l'adultère.
Voilà.
Alors, enfin, à un moment, elle fait appel à un détective.
Un détective privé. C'était parce que, du coup, le divorce est possible à condition de prouver, de faire prouver
flagrant délit,
constat d'adultère. Voilà. Oui. Sinon, c'est pas possible. Sinon, elle n'a rien. Là, du coup, elle peut caresser l'espoir d'obtenir au moins une pension pour et la garde de sa fille. Si elle divorce, elle n'a ni l'un ni l'autre.
Vous l'aurez bien compris, notre invité, Frédéric Baptiste, dont le premier roman Amoureuse est sorti il y a quelques mois.
Le 11 juin.
Le 11 juin, aux éditions Julliard. Il aborde donc le thème de l'émancipation des femmes par l'amour. Un récit inspiré d'une histoire vraie qui nous plonge au cœur de l'intimité de deux femmes qu'apparemment tout oppose. Mais lisez le roman et vous verrez qu'effectivement, il y a des terrains d'entente. On marque un nouvel intermède musical et puis bien évidemment, nous retrouvons notre invité juste après la petite offre musicale que nous vous proposons.
Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissées, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages, garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés casser un peu partout. D'enfance un jour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Amoureuse, Frédéric Baptiste, votre premier roman disponible en librairie aux éditions Julliard, vous abordez un thème qui fait résonance, qui fait écho à une actualité sociologique de la France des années 2000. Bon, cette future maman Claire qui refuse ce bébé mais qui va l'offrir, c'est une offrande qu'elle fait à Marthe et à son mari Édouard, le cafetier à la campagne. Il y a cet échange entre les deux femmes. Ça, c'est très moderne. Être payé pour porter un enfant, c'est Marthe qui pose cette question. C'est Claire qui pose la question et Marthe répond, ce serait absolument amoral. Ou moderne, dit Marthe en riant. Alors, vous pensez que des femmes, les fameuses mères porteuses, vous pensez que elles vont se développer à l'avenir pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour les couples homosexuels? Alors, il y a grand débat. Hein. Là, la loi n'a pas encore tout complètement tranché.
Je l'espère, je ne sais pas. Quoique oui, en tout cas, je le souhaite. Je le souhaite parce que je pense que chaque couple, quel qu'il soit, doit avoir la possibilité d'avoir un projet d'enfant, même s'il est stérile. Évidemment... et quelle que soit la nature du couple, d'ailleurs, homme-homme, femme-femme, femme-homme, voilà. Je pense que non seulement c'est moderne, mais ça me paraît nécessaire. Pourquoi pas ?
En tout cas, l'avortement est légalisé en France, hein, on le sait, par le biais d'une loi portée par une femme très courageuse aussi, hein, Simone Veil.
Oh là là !
Et c'était en 74, si je ne m'abuse.
71 ou 74, je crois que ça a mis trois ans pour se faire. Mais oui, c'est ça, c'est... on est dans une république laïque quand même, donc au nom de quoi cela serait-il interdit ?
Alors, la grande liberté que vous prenez à nous offrir le bonheur de ces deux femmes, parce qu'on assiste à l'accouchement d'un bonheur dans un premier temps entre ces deux femmes, vous reproduisez un article de presse que vous avez trouvé dans la presse de l'époque, vraisemblablement les années 38-39.
C'est 38-39, puisque je suis bête, c'est juste... c'est avant la déclaration de guerre, donc je ne sais plus s'il date de 38 ou de 39, mais en tout cas, c'est vraiment pile au moment.
Alors, il se situe page 45 dans votre roman, Frédéric Baptiste, et je vous demande, s'il vous plaît, de le lire, parce que je trouve que cet article reflète une partie peut-être de la mentalité des Françaises et Français de l'époque.
Je vais juste lire un tout petit peu ce qu'il y a avant. Marthe ouvre un journal posé sur une chaise et... montre à Claire un dessin caricatural sur lequel on voit deux hommes et une femme, les yeux bandés, ligotés à un pilori. Au-dessus de leur tête sont clouées des pancartes « Avorteur »,« Avorteuse », »,« Traître ». En légende, l'article est éloquent. Voyant que Claire ne réagit pas, Marthe le lui lit à voix haute. Les célibataires, les femmes qui travaillent et les avorteurs sont les ennemis de la nation. Les célibataires parce que ce sont des profiteurs. Injustice. Dans la balance électorale, le célibataire qui laisse mourir son pays pèse autant que la famille nombreuse qui assure son existence. Les femmes mariées qui travaillent ne peuvent élever des enfants et sont responsables du chômage. En effet, la femme mariée sans enfants exerce une profession. Elle met donc un homme au chômage. Les avorteurs tuent un petit Français sur trois. Ceux qui les protègent trahissent la France au profit de l'étranger. Une seule place pour eux tous, au poteau. Le gouvernement travaille à un code de la famille et promet la création de brigades policières spécialisées pour traquer tous ces traîtres. En Autriche, l'internement des avorteurs a fait augmenter le nombre de naissances de 20% en 7 mois, qu'on se le dise.
Merci Frédéric Baptiste pour la lecture donc de cet extrait de journal qui est authentique. Hein. Là, nous sommes bien d'accord, c'est la reproduction véridique d'un article paru dans la presse. Où avez-vous trouvé cet article ? C'est une recherche
C'est une recherche que j'ai faite sur Internet d'ailleurs, mais de fil en aiguille, où j'ai dû aller après peut-être bien aux archives nationales, enfin je ne sais plus. Je sais que quand j'ai voulu en vérifier l'authenticité, ce dont j'étais sûr, hein, je n'ai pas réussi, j'en avais fait une copie, je n'ai pas réussi à retrouver le document initial parce que Vanessa Springora, qui est mon éditrice chez Julliard, m'avait demandé le document document original pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et voilà. Donc, ça faisait partie d'une recherche qui est devenue... que je n'ai pas réussi à identifier parce que j'ai fait cette recherche il y a quelques années, en fait. Ça m'avait tellement stupéfait parce que, du coup, j'avais lu par ailleurs qu'effectivement, en 1938, des brigades policières ont été vraiment constituées par le gouvernement pour traquer, persécuter, emprisonner, voire mettre à mort des avorteuses, enfin des faiseuses d'anges.
Alors on a bien compris que Marthe ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'elle est tout de même dans une relation plutôt heureuse avec son mari Édouard. Mmh. Néanmoins, elle n'a jamais été amoureuse de lui. Et pourtant, elle éprouve à son égard de cafetier de mari une véritable tendresse qui est authentique et profonde.
Ah oui, c'était le cas
mais
dans la vraie vie d'ailleurs.
Elle est insatisfaite.
Elle est insatisfaite parce que son désir, elle le sait, mais elle l'a oublié parce qu'elle a eu très jeune un élan amoureux avec la sœur d'Edouard qui est morte quand elles avaient une vingtaine d'années. Donc de cet amour éperdu, malheureux parce que perdu justement, elle s'est consolée dans les bras et sur l'épaule d'Edouard et mutuellement puisque lui venait de perdre sa petite sœur. Et donc du coup de là est né leur amour, leur tendresse, lui étant fou de cette femme parce qu'elle le comble, parce qu'elle est charnelle, parce qu'elle est belle, parce qu'elle elle correspond à la simplicité de la vie qu'il aime avoir là où il est. C'est un gars du pays, c'est un bonhomme, comme on dit. J'aime beaucoup ce personnage de Édouard. Et du coup, son amour fou pour cette femme est payé en retour par une tendresse. Voilà. Elle ne lui manifeste jamais ni aucun mépris, ni aucune agressivité, parce qu'elle a refoulé finalement, elle a son attirance pour sa sœur défunte est révolue. C'était avant.
Mais alors pourrait-on dire que Marthe est bisexuelle ?
Les deux sont bisexuelles, puisque du coup elles ont eu des maris et du plaisir dans leur découverte amoureuse, mais leur véritable jouissance est dans le fait d'aimer une femme.
Il y a un aspect historique très intéressant dans votre roman, Frédéric Baptiste, c'est que vous expliquez que pendant la guerre de 14-18, parce que les conséquences de 14-18 sont encore là, hein, les gens ont quand même toujours présent à l'esprit le drame de cette guerre, surtout quand une nouvelle guerre menace. Et vous expliquez que ça a été la grande pagaille, que finalement les hommes sont partis au front et que beaucoup de femmes se sont retrouvées seules dans les foyers et que pour briser la solitude, elles se sont rassemblées. Alors moi, j'ai peut-être surinterprété le propos. J'ai eu l'impression que peut-être vous subodoriez que entre 1914 et 1918, peut-être qu'il y avait eu beaucoup d'histoires identiques à celles de Claire et Marthe, c'est-à-dire des femmes seules dont les maris étaient au front, qui pourtant aimaient leurs maris, se sont peut-être cajolés. J'exagère un peu, non ?
J'ai entendu dire, mais alors là, je n'ai pas pu vérifier la véracité historique de ça, mais j'ai entendu dire qu'effectivement, les femmes s'apportaient, si ce n'est de la tendresse, en tout cas, à travers la sexualité ou pas, d'ailleurs, ça n'est pas notre problème, mais en tout cas, ce sont certaines, vivaient dans des grandes maisons, elles avaient peur, c'était quand même risqué, donc j'ai entendu ça. D'ailleurs, oui, après, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais que ma grand-mère allait tantôt chez sa mère, tantôt chez sa belle-mère, parce que c'était compliqué pour elle de vivre seule avec un enfant. Donc, les femmes s'entraidaient comme ça. Il se trouve que certaines sont allées chercher du réconfort, de la tendresse. Ça a été le cas entre Marthe et Micheline, la sœur d'Edouard avec qui donc elle a eu ce premier amour. C'est le hasard de cette guerre qui les a mises adolescentes dans le même lit. Et c'est là qu'elles ont découvert leur penchant et qu'elles ont vécu leurs premières expériences amoureuses, sexuelles.
En tout cas, on peut dire qu'on y reviendra après la pause musicale que nous allons marquer. Mais c'est un roman qui nous interpelle sur les désirs. Quelles en soient les origines. Je pense à Robert, le gringalet du village, un jeune homme, je dirais peut-être pas le simplet du village.
Si, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Hein.
Sans mépris.
Un c'est... petit gars gringalet, donc physique malingre, cerveau simple, quoi. Petit gars de la campagne qui ne sait ni lire ni écrire et qui pourtant écoute ce que son corps lui dit. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Même s'il n'a pas tellement la capacité de verbaliser, nos corps nous parlent. Et lui, ce gringalet, son corps lui parle. Il n'est pas insensible à la beauté de Claire, cette nouvelle femme qui arrive comme ça, tombée du ciel dans le village.
Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai cherché à traiter le thème du tomber amoureux. C'était vraiment mon sujet, à travers la vie de chacun des personnages. Et j'ai eu envie, et j'aime beaucoup ce personnage secondaire de jeune gars de la campagne, qui effectivement, lui incarne pour moi la surprise de l'amour. Claire et Marthe, c'est plutôt le triomphe de l'amour. Sans faire de marivaudage, c'en est pas tout à fait un quand même. Robert incarne pour moi la surprise de l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, cette étrangère tellement différente des filles du village, parce que elle s'habille bien. La première fois qu'il la voit, c'est comme, ouais, je crois que je le dis, il a l'impression d'avoir une apparition de la Vierge, quoi. Bien coiffée, maquillée, bon, bref. Et du coup, effectivement, ça s'incarne. Lui qui n'a pas forcément le même discernement ou qui n'a pas un regard cérébral sur la situation, ni forcément sentimental, c'est pulsionnel, c'est archaïque. Et donc, du coup, il est surpris, trahi, son désir est immédiatement incarné. Et c'est embarrassant quand on rougit en face d'une jeune femme qu'on ne connaît pas.
Alors, il n'y a pas que les rougissements, parce qu'il y a aussi cette érection. Alors, voilà. C'est marrant parce que vous savez. Vous savez aborder des choses avec beaucoup de tact, de finesse, sans vulgarité. On comprend très bien l'érection, le trouble sexuel de ce jeune homme. La première fois qu'il voit cette femme de la ville, élégante, parfumée, en robe et coquette, comme il n'a jamais eu l'occasion d'en voir à la campagne. Vous racontez aussi le gros sexe d'Edouard, qui semble apparemment quand même très bien muni sexuellement parlant. Mais ce sont... Mais moi, je n'ai pas de gêne à lire cela. Ce sont des réalités.
Il y a des gens qui sont comme ça.
Qui peuvent prendre place dans un roman. Voilà, bien évidemment. Oui. Et ça existe aussi dans la
réalité.
Bien sûr. Frédéric Baptiste, on marque une dernière pause musicale, si vous le voulez bien. Ouais. Je rappelle que notre échange a été enregistré le 26 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon, à l'occasion de la 13e édition de Livres en Vigne. Nous vous laissons en compagnie d'une pause musicale et nous revenons juste après pour continuer et conclure sur ce premier roman de notre invité, Frédéric Baptiste.
Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret, même une huée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agi. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol, à deux auras du sol, une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Je les trouve bouchés. qu'ils en pensent ou disent, je ne pourrais rien y faire. Qui arrête les colombes en plein vol, à dehors à du sol, une femme avec une femme. Oh, 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 oh. Qui arrête les colombes en plein vol, à dehors à du sol.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Frédéric Baptiste, Amoureuse, votre premier roman, paru aux éditions Julliard, courant juin de cette année 2020, dans un contexte compliqué pour le monde de l'édition. Néanmoins, c'est un roman qui va toucher. Est-ce que c'est un roman qui va toucher? Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà quelques retours de lectrices et lecteurs. Oui. C'est un roman qui, d'après vous, touchera plus les femmes que les hommes?
Alors, en termes de statistiques, si j'en crois effectivement tous ces lecteurs qui ont la délicatesse, moi ça me touche beaucoup, ça me bouleverse même, de m'envoyer des messages via les réseaux sociaux et même de m'envoyer des petites photos du livre mis en scène là où ils l'ont lu. Pour la plupart d'ailleurs, lu d'une traite ou en deux ou trois fois, parce que c'est comme ça que, oui, qu'en tout cas, il le savoure, il le dévore, me dit-on. Globalement, l'échantillon, ça doit être, 80% de femmes et 20% d'hommes. Mais il y a des hommes quand même.
Ce qui est aussi très intéressant dans cette histoire d'amour entre les deux femmes, c'est que, bien sûr, il y a plaisir du corps, plaisir de la chair, mais il y a aussi un aspect très important qui est mis en valeur, c'est la jouissance spirituelle. Mm-hmm. Et ça, c'est très beau aussi, parce que, cette homosexualité de femme, alors, il y a la scène où ces deux femmes se caressent et que notre petit gringalet du village, le Simplet, va voir et qui va d'ailleurs le bouleverser. Parce que finalement...
Ça le traumatise.
Pour lui, c'est finalement la compréhension que cette très belle bourgeoise de la ville n'est pas pour lui, peut-être. Bah,
premièrement ça, mais ça, je pense que c'est même pas ça. Je suis parti de quelque chose de freudien, c'est-à-dire la scène fondamentale que, soi-disant, on aurait tous... on vivrait tous, chacun, c'est-à-dire surprendre nos parents en train de faire l'amour. Voilà, ne plus s'en souvenir, le scotomiser, comme on dit, c'est-à-dire le refouler. Et pour moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en scène. Non pas pour lui faire prendre conscience que cette femme n'est pas pour lui, ça, il le réalisera un peu plus tard. C'est juste d'avoir affaire à une scène qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire... deux femmes qui se caressent, qui se font jouir l'une l'autre, ça n'existe pas à la campagne en 1938. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas dans, alors ni encore moins dans les représentations ni religieuses, ni littéraires, ni artistiques, il n'y a aucune représentation de l'amour entre femmes à ce moment-là. Donc ça n'existe pas, même pour Édouard qui va l'apprendre à un moment donné. Il n'en revient pas, il trouve ça dégueulasse même, parce que pour lui, même s'il a surpris dans un lupanar qu'il fréquentait dans sa jeunesse des femmes batifolées entre elles, pour lui c'était juste des jeux érotiques dans l'attente du mal.
Et dans un contexte dont les codes étaient posés
dès
le départ.
Posés dans une maison de prostitution, donc oui. Voilà, pour lui c'est ça. Mais pour les jeunes gens de la campagne, ils n'ont même pas connaissance de ce genre de choses. Donc c'est un choc pour lui. Et ce que j'ai voulu raconter là, c'est qu'aussi, quand on n'est pas préparé à la sexualité, quand on est très immature par rapport à ça, cela peut représenter un choc émotionnel important que d'y être confronté, voilà, oui. Trop jeune, trop tôt.
Alors, il faut aussi rappeler le contexte de l'époque. On est en 1938-39, c'est-à-dire oui. 80 ans en arrière. Hein.
Voilà.
Il faut aussi parfois se remettre dans les époques.
Et on est dans la campagne oui. hein, profonde, normande.
D'ailleurs, chapitre 36, le narrateur écrit « Il y a des choses dans la vie dont il ne faut pas être témoin ».
Voilà.
Bon. Vous êtes d'accord, Frédéric?
Ah ben, c'est pour ça que je l'ai écrit. Oui, je pense qu'il ne faut pas en être témoin trop tôt dans la vie. Voilà.
Il y a une autre femme aussi qui est mise en valeur. Alors, c'est Émilie, c'est une fille du village, une fille extrêmement énergique qui, j'allais dire, préside un peu l'organisation des soirées cinéma. Alors, dans l'église, j'adore aussi le fait que l'église devienne tout d'un coup salle obscure, mm-hmm. avec son écran où les villageoises et villageois prennent leur place. Ils sont placés énergiquement par Émilie, donc qui a été bénévole à la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale, qui n'est pas veuve de guerre, malheureusement pour elle, parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'ancienneté de mariage. Si je peux dire. Je crois qu'il fallait 3 ans mariée pour avoir le statut de veuve de guerre, qui était un statut avantageux financièrement.
Et pour toucher une petite pension de veuve, ouais. Mais de toute façon, quand bien même elle l'aurait eue, elle ne l'aurait pas prise. Voilà. C'est un type de personne. C'est un personnage, une femme que j'ai voulu, parce que j'en ai connu comme ça, c'est-à-dire débattante. Elle a aimé un homme, il est mort, il n'y en aura pas d'autre. Et du coup, de sage-femme qui accompagne les soldats bousillés par la guerre sur le front, elle les accompagne dans leurs derniers instants. Elle deviendra, après la mort de son mari de soldat, et de son seul et unique amour, elle deviendra sage-femme, c'est-à-dire accoucheuse de bébés. Donc, elle aide les femmes à mettre au monde leur enfant. Voilà, c'est son parcours. Elle est un peu, comme on dirait aujourd'hui, brute de décoffrage, Émilie. Elle fait semblant de rien, voilà. Oui. Direct, authentique, cash.
Et puis, rappelons que l'action de votre roman débute à l'hiver 1938. Le roman se termine
au moment de la déclaration de la, guerre,
au moment où l'Allemagne attaque la Pologne. On n'en dit pas plus. Hein, il faut se procurer le roman, le lire et suivre les aventures de ces deux femmes qui sont assez exceptionnelles. Peut-être que c'est un roman qui pourrait déplaire à des lectrices ou lecteurs qui seraient un peu dans une morale un peu rigide, car il y en a encore dans notre pays, et je ne dis pas en cela que c'est condamnable. Les mœurs, me semble-t-il, ont évolué, quoique...
Les mœurs ont évolué, heureusement, oui, bien sûr.
Il y a tout de même encore un peu des zones d'obscurantisme.
Oh, il y aura toujours...
Encore un peu de Moyen-Âge qui traîne dans certains esprits.
Il y en a toujours, oui, il y en aura toujours. Après... moi, je ne cherche pas à faire forcément du prosélytisme parce que ce qui m'a intéressé, c'est vraiment à nouveau la liberté. C'est-à-dire, ce n'est pas un roman sur l'homosexualité.
Oui, ce n'est pas l'apologie, on est bien
d'accord. Non, c'est juste une façon de dire soyons libres d'aimer qui... Enfin, je suis libre d'aimer qui je veux. Voilà. Et puis aussi, surtout sur le triomphe de l'amour, on parlait un petit peu de la spiritualité, mais aussi du sentiment. Ce que je voulais, moi, poser comme, en tant que romancier, quoi, en tant qu'auteur, c'est ce fait que pour ces héroïnes, c'est le sentiment et l'amitié qui précèdent le désir. Alors qu'on est dans une époque... où c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est le physique et le désir qui amènera les sentiments. Après, moi, je n'ai aucun jugement sur le chemin que chacun suit, mais j'avais envie de poser ça, oui. Là.
En tout cas, c'est un roman qui remet peut-être les choses en bon ordre.
Je ne sais pas si c'est le bon ordre.
Et qui invite à une réflexion, voilà, sur l'acceptation de la liberté, des désirs et de la sexualité de l'autre. C'est un roman qui encense le désir... Aimez-vous et puis ne vous préoccupez pas trop des autres, parce que c'est un peu ce que font ces deux femmes.
Absolument.
Courageusement.
Ouais. Elles se sont aimées à l'abri des regards toute leur vie.
Ouais. Et c'est donc au cœur de votre premier roman, Amoureuse, au pluriel, de Frédéric Baptiste. Vous savez, Frédéric, je le dis, le grand plaisir que j'ai eu à lire votre premier roman.
Merci.
Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien et puis surtout... Je souhaite vivement que celles et ceux qui auront écouté notre échange vont aller en librairie, trouver votre roman et aller aussi partager les émotions que vous avez suscitées en moi lorsque j'ai lu votre roman. Et je vous en remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir été aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Merci. Et moi, je serai... Merci à vous de m'avoir reçu et d'avoir de notre échange. Je serai ravi pour les lectrices et les lecteurs qui auront envie de lire ce livre, de partager avec eux leurs impressions via les réseaux sociaux. Frédéric Baptiste, je suis sur Facebook.
On vous trouve sur Facebook.
Voilà. Suis via Julliard, sinon. Mais j'aurai beaucoup de plaisir à parler de ce livre, de ce que vous en avez pensé.
Amoureuse de Frédéric Baptiste, disponible en librairie. Merci de nous avoir suivis, accompagnés aujourd'hui sur Radio. Merci encore à vous, Frédéric Baptiste. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 26 septembre dernier lors de la 13e édition de Livre en Vigne, dans la cour du château du Clos de Vougeot. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et puis bien évidemment, je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Au revoir.
Au revoir.